Mais avant, le coup de gueule du soir, il est signé Emmanuel Macron, le président de la République, en colère après les polémiques de ces derniers jours autour d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver.
Ce débat est absurde. Est absurde. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc, le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun à la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Les scénarios de la peur, pas pour moi. On reste tous unis et on avance.
Pas pour moi, dit le président. Bonsoir Yves Marignac. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous, expert énergie de l'association Négawatt. Il a raison, le président de la République ?
Il symbolise toute l'ambivalence du discours politique depuis plusieurs mois, puisque ouais. Ça fait plusieurs mois qu'on voit cette crise énergétique hivernale arriver, et c'est le gouvernement lui-même qui, il y a quelques semaines, disait qu'il fallait se préparer à des coupures. Tout dépend de ce qu'on appelle le scénario de la peur. Le risque d'un blackout, d'une panne généralisée, etc., il est plus important que d'habitude. Il n'en devient pas très important pour autant. Le système énergétique se présente cet hiver avec beaucoup moins de marge qu'il en avait les années précédentes. En revanche, ce qui est probable aujourd'hui, et c'est RTE qui le dit, et RTE n'est pas un fournisseur d'énergie, hein, RTE c'est le responsable de l'équilibre du système électrique, il y a un risque réel que l'on doit opérer des délestages, ça fait plusieurs jours qu'on en parle. Savoir si le fait de délestage, c'est des scénarios de la peur, je ne pense pas, c'est des coupures maîtrisées et organisées, et surtout, c'est ça toute l'ambivalence du discours, le président de la République à nouveau parlé de sobriété. La sobriété, c'est justement le moyen aujourd'hui pour éviter que ces délestages...
Alors on verra si la sobriété peut suffire, on en parlera dans une seconde. Nora Mali, simplement sur ce que dit Emmanuel Macron à l'instant, je reprends les scénarios de RTE hier, qui transportent l'électricité jusqu'à chez nous. Hein. RTE disait hier, on sera grosso modo entre 0 et 28 coupures. On l'a pas inventé. Emmanuel Macron peut dire arrêtez de faire peur, etc. On l'a pas inventé. C'est factuel. C'est ce que nous dit RTE. Quand on commence à nous dire qu'il pourrait y avoir, dans l'un des scénarios, 28 ouais. coupures, on peut comprendre que chez les Français, il y a un peu de flottement, un peu de doute.
Et puis surtout, on vient de parler du Covid à l'instant. On a parlé de l'inflation hier, une partie de la soirée. On voit qu'on est aussi dans un moment d'anxiété qui peut conduire aussi la plupart des gens à s'interroger sur le mois qu'ils vont peut-être vivre d'ici à janvier, février, au moment où on sera au pic peut-être des températures basses. Que ce soit RTE, que ce soit Enedis, ils sont absolument dans leur rôle que d'anticiper justement ces modèles. Enfin, là, il n'y a rien d'extraordinaire. En revanche, quand le chef de l'État, vous le rappeliez à l'instant, nous disait lui-même même en fait qu'il fallait que les centrales en fait soient en ordre de marche en décembre et qu'elles ne le sont pas, là on peut se poser la question de la réponse politique et de l'anticipation et de cette nécessité d'anticiper, de faire la maintenance nécessaire. On ne va pas refaire l'histoire. Mmh. En revanche, ce qu'il a aussi dit, vous ne l'avez pas passé, c'est nous sommes la France, nous sommes un grand pays. Voilà. Mmh. Est-ce qu'à un moment, on peut renvoyer dans ces 22 mètres, puisque du coup, voilà, on est dans une Coupe du Monde de football, les Français ou même ceux qui sont aux manettes de cette crise.
22, c'est le rugby.
Ah, c'est pardon.
C'est du rugby.
C'est pas ça.
J'ai hésité, et puis bon.
C'est pas grave. Bon, on les a renvoyés au point de pénalty. Mais j'ai essayé. Merci quand même. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que nous renvoyer à l'idée qu'on serait un grand pays, justement, un grand pays, il anticipe et on fait en sorte d'éviter ces blackouts. Quand hier, on a justement travaillé sur ces scénarios et quand on en a débattu, on parlait quand même de plusieurs milliers de personnes qui sont en difficulté et qui sont armées à des machines sous respirateur qui seraient susceptibles d'être délestables. On en est quand même là. Donc là, évidemment, on ne peut parler que de scénarios de la peur. Donc là-dessus, on est vraiment dans une idée de en même temps qui est quand même un petit peu une forme d'ingestion.
Emmanuel Macron,
on est quand même dans des injonctions contradictoires au gouvernement où d'un côté en fait on demande d'anticiper et de l'autre on a un président de la République qui dit arrêtez d'avoir peur, après tout on est un grand pays. C'est un peu facile et là-dedans quand on sait en plus que par exemple nos enfants vont être impactés si jamais il y a des délestages à tel point qu'on risque de fermer les écoles, là il y a les fédérations de parents qui montent au créneau en disant mais c'est quand même inadmissible qu'on ne puisse pas se dire que ces gamins sont prioritaires. Enfin, comment à un moment nous renvoyer dans les cordes, donc pas dans les 22 mètres,
non, dans les cordes. Dans les buts, vous pouvez aussi.
Voilà, exactement, en nous disant qu'on est juste un grand pays. Enfin, on voit bien qu'on est dans une problématique d'anticipation réelle et de double discours.
Ce qui est frappant dans ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est que lui se dégage de toute responsabilité. En gros, il explique que les ministres, le gouvernement, RTE, Enedis doivent faire leur boulot, qu'on est un grand pays et qu'il n'y aura pas de coupure. Moi, je trouve que c'est quand même assez ahurissant. C'est quand même le même président président qui nous disait en juin, il n'y aura pas de coupure. Et qui aujourd'hui arrive comme un pompier pyromane et dit le gouvernement, les ministres, RTE, Enedis, débrouillez-vous, je veux pas de coupure et les Français soyez sobres, sinon ça va couper. Et moi, ben moi c'est pas du tout mon boulot, moi je suis pas du tout responsable de tout ça. Je trouve que dans cette déclaration, la façon de le dire, il y a quand même un dégagement qui est un peu problématique.
Je précise une chose concernant les personnes sur respirateur, 4 à 5 000 personnes en France, la précision qui a été donnée aujourd'hui, qui est une précision importante.
De Madame Borne.
La plupart de ces personnes sont sont équipés de machines qui ont des batteries qui peuvent tenir plusieurs heures, 4 à 8 heures. Donc normalement ces personnes-là, et en plus elles vont être prévenues, etc.
Et lors des questions au gouvernement, Elisabeth Borne a bien dit qu'effectivement elles étaient, enfin que tout, il y aurait une prise en charge.
Elles sont normalement recensées.
Voilà, exactement.
On voit ce petit moment de flottement ici en France, de doute. Pauline Simonet, comment ça se passe chez nos voisins?
Alors, il y a évidemment toute une série d'autres pays européens qui sont confrontés au même problème. Ça ne provoque pas forcément les mêmes débats qu'en France, mais c'est vrai qu'il y a toute une série de pays qui ont prévu, eux aussi, des délestages. C'est le cas en Grande-Bretagne, même si la Grande-Bretagne, pourtant, exporte de l'électricité vers la France. Mais il y a des plans qui sont prévus. Par exemple, en cas de besoin, il y aurait possiblement des coupures entre 16 et 19 heures le soir. Et puis, il y a même un scénario catastrophe qui est envisagé. S'il fait très, très froid, il pourrait y avoir un blackout, c'est-à-dire un jour et demi sans électricité. Ça, c'est vraiment le scénario catastrophe. En Suisse, même chose, il y a un plan qui a été dévoilé, un plan de délestage, des délestages qui dureraient jusqu'à 4 heures. Et là, on précise que les grandes villes
seraient
aussi impactées. Et puis, l'Italie aussi envisage des scénarios de délestage qui dépendront, là aussi, encore une fois, de la météo. Un couvre-feu énergétique est prévu en Italie en cas de grand froid, commerce fermé, ouverture restreinte pour les entreprises. Et puis, en dernier recours, on évoque aussi des coupures pour les particuliers. Mais il y a certains pays qui s'en sortent beaucoup mieux. La Belgique, par exemple.
C'est une Belge qui vous le dit.
Voilà, tout à fait. Là, aucun plan d'urgence, aucun plan de prévision, parce que le parc nucléaire belge est au complet.
Oui, mais ce n'est pas juste.
Mais parce qu'ils ont décidé de maintenir des centrales qui devaient normalement être fermées.
C'est
et
vrai.
C'est ça aussi qui est intéressant.
Et donc, parc nucléaire et en plus de l'énergie non renouvelable, pardon, qui a été pas mal développée en Belgique et qui fonctionne. Et puis, les stocks du gaz qui sont au maximum. Le pays n'envisage donc aucune coupure et exporte de l'électricité à la France. Et ce qui tombe bien, c'est que vendredi, il y a eu l'inauguration d'une nouvelle connexion qui va permettre d'exporter deux fois plus, d'échanger deux fois plus vers la France. Il faut dire quand même que la Belgique a bénéficié d'électricité française quand ça n'allait pas bien.
Merci de
le
reconnaître, Pauline.
Merci de le reconnaître, Pauline Simonet.
Je le reconnais tout à fait. Et puis, dernier exemple, pas le moindre, l'Allemagne. L'Allemagne, ça c'est vraiment intéressant puisque c'était évidemment l'un des pays les plus vulnérables, tant il était lié au gaz russe. Il y a eu beaucoup de campagnes de prévention depuis de nombreux mois, un grand plan de sobriété qui fonctionne bien, la réouverture de plusieurs centrales à charbon, ça c'est moins bon évidemment pour l'environnement, et le défi a été relevé. Écoutez ce que disait, c'était en septembre dernier, Olaf Scholz, le chancelier allemand.
Nous nous trouvons maintenant dans une situation différente d'il y a un an, parce que nous avons économisé de l'énergie, parce que nous avons pris des précautions, parce que nous avons pris cette décision. Nous sommes dans une situation où nous pouvons dire que nous allons passer l'hiver malgré toutes les tensions. Et ça, personne n'aurait pu le garantir il y a 3, 4, 5 mois. Et c'est parce que nous avons commencé tôt, alors qu'il n'y avait pas encore de prise de conscience en Allemagne, que nous sommes maintenant en mesure d'aborder courageusement cette hiver, pour que notre pays survive.
Effectivement, ça c'était en septembre dernier et on voit que le défi a été relevé effectivement. Pour l'instant, on ne craint pas en tous les cas de coupure tout prochainement en Allemagne. Et notre correspondante nous disait qu'en revanche, on est quand même très prévoyant, on continue à être très organisé. Tout le monde a reçu ce petit guide de préparation et d'action face aux situations d'urgence. Il est dit ce qu'on doit faire au cas où il y aurait éventuellement des coupures. Il faut notamment se prémunir d'avoir de la nourriture en conserve, avoir une lampe de poche toujours à proximité au cas où. Et donc ça a été distribué à toute la population. Et c'est fait depuis de nombreux mois.
C'est le modèle allemand.
Ben voilà.
Oui. C'est gouverner, c'est prévoir.
Exactement. Oui. Yves Marignac, il y a plusieurs choses qu'on entend beaucoup ces dernières heures, ces derniers jours. Je voulais les vérifier d'une certaine manière avec vous. On entend beaucoup ces appels à la responsabilité de la part du gouvernement qui nous cible d'une certaine manière en disant si on est tous sobres, si on fait tous des petits gestes, ça va passer. Est-ce qu'on est dans les bons ordres de grandeur? Est-ce que les petits gestes peuvent nous permettre d'éviter les coupures?
Alors oui, très clairement, parce que ce qui se joue lorsque on parle de ces coupures, c'est pas un manque énorme d'électricité, c'est juste un delta entre la production que l'on peut injecter sur le réseau et la demande. Donc réduire un peu la demande fait une différence. Typiquement, quand on est dans ces pointes électriques, on parle souvent de la pointe de 18h-20h, notamment à cause de l'éclairage. L'éclairage, c'est effectivement ce qu'on allume en plus à ce moment-là, mais c'est un tout petit delta. L'essentiel de cette consommation, c'est environ 30 gigawatts sur 90 gigawatts à la pointe qui viennent du chauffage électrique. Et donc, ça veut dire que si chacun, effectivement, fait le geste qui a été préconisé de ramener la température à 19 degrés, ce, évidemment qu'ils peuvent, hein, il y a par ailleurs la question de la précarité énergétique, eh bien, on peut effectivement réduire. Mais venant du gouvernement, et ça renvoie à la question de la responsabilité. Il faut quand même se souvenir que le même président de la République, il n'y a pas si longtemps, qualifiait la sobriété de modèle Amish pour la disqualifier justement. Et donc, en fait, cette question de fierté de la France, elle est vraiment mal placée. Mais surtout, on est dans un pays qui s'est accoutumé depuis des dizaines d'années autour de sa fierté nucléaire à l'idée que la fourniture d'électricité était garantie et qui, effectivement, ne s'est pas suffisamment préparé la défaillance que l'on connaît aujourd'hui.
Oui, mais autre chose qu'on entend en ce moment, l'éolien, le solaire ne le sauverait pas franchement, parce que précisément, aux heures de pointe, si je puis dire, le solaire, on oublie entre 18h, à partir de 18h, évidemment, c'est... on oublie en hiver. L'éolien, il n'y en a pas toujours, donc ça ne nous sauve pas. Donc, il faut, malgré tout, conserver grandement le nucléaire.
Alors, c'est vraiment toute la difficulté de la transition énergétique dans le système électrique. On a une mauvaise perception en France du fait de la part très importante du nucléaire. Les systèmes électriques en Europe, et l'Allemagne en est un bon exemple, ont été construits sur des centrales thermiques parce qu'elles sont les plus pilotables possibles. Et se passer des centrales thermiques tant qu'on est dans un système qui reste très dépendant l'hiver du chauffage, et en particulier du chauffage électrique, et la France est championne du monde en termes de sensibilité, on parle de thermosensibilité, il faut toujours rappeler que 1 degré de moins l'hiver, c'est l'équivalent de 2,4 gigawatts de plus en demande, donc l'équivalent de plus de 2 réacteurs. Compter sur les réacteurs, c'est compliqué, on le voit actuellement avec leur manque de disponibilité. Compter sur des nouveaux réacteurs, on sait que c'est long et incertain. Compter sur les renouvelables, c'est difficile. En fait, les deux seuls leviers d'action dont on dispose pour solutionner ce problème, c'est un, développer des moyens de stockage et de pilotage de la demande. Il y a des solutions, mais ça prend du temps à mettre en place. Et deux, la sobriété à court terme. Il n'y a pas d'autres leviers d'action possibles pour faire face aux difficultés.
Et alors, autre point que je voulais aborder ce soir, on nous explique que le risque est surtout pour janvier. Sauf que le froid, Christophe Persson, on vous retrouve, chef du service météo et client BFM TV. Bonsoir Christophe, merci d'être en direct avec nous. Le froid arrive, le très froid même, arrive ce week-end. Ah, on n'a pas de son, on ne vous entend pas Christophe Persson. Il y a peut-être un bouton appuyé simplement sur le... Je ne sais pas. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'on vous entend, Christophe? Non, ça ne marche pas, malheureusement. Je vous le dis, le froid, le très froid arrive.
Alors, le week-end, c'est moins grave.
Le week-end, absolument. Ah, oui. Le week-end, c'est moins grave. Mais est-ce que, par exemple,
point de vue électrique,
on pourrait avoir, du côté des Coat, une première alerte en début de semaine prochaine, pour le lundi, par exemple?
C'est possible. Ce que je vous indiquais à l'instant sur cette thermosensibilité indique bien que 1 degré de moins dans les températures par rapport à la prévision météo met le système en difficulté. Et 1 degré, effectivement, du point de vue de la précision météo, c'est pas tant que ça. Donc, une vague de froid peut venir mettre le système en difficulté avant janvier. C'est évidemment parce qu'on a cette fragilité qu'on parle depuis des semaines de ce risque de délestage.
Bon, merci beaucoup. Merci Yves Marignac d'avoir été en direct avec nous. On va reparler, évidemment, vous voyez.
On n'est pas franchement assuré quand même.
Normalement, c'est pour janvier.
Alors, c'est vrai que c'est que 2 heures. Hein. C'est vrai qu'au Lyon,
mais encore une fois, voilà.
Le
scénario de la peur, oui, non, parce que ces coupures sont quelque chose de gérable, qu'on a déjà connu aussi.
Merci Yves Marignac.
En 2009 et en 2006.
Merci d'avoir été en direct avec nous ce soir.